Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est Google qui vole la vedette. On parle d'emblée des différents modèles d'attribution à utiliser dans le commerce en ligne avant d'enchaîner sur les tests qu'on a fait dans le mois dernier avec notre directrice du département, Adeline Navarro. Les modèles d'attribution Google Ads. Comme beaucoup de plateformes, Google Ads propose plusieurs modèles d'attribution. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ceux que nous utilisons et pourquoi. Avec notre département Google, nous réalisons beaucoup de diagnostics publicitaires et d'audits de comptes. Bien souvent, on remarque que les modèles ne sont pas tous homogènes à travers les conversions. Pourtant, tous les modèles d'attribution ne sont pas égaux. Avant de commencer, comprenons qu'un modèle d'attribution a pour but de déterminer à qui revient le mérite de la conversion, considérant tous les points de contact avec lesquels un utilisateur a été touché. Bien évidemment, ici, nous parlons uniquement de l'écosystème de Google Ads. Les points de contact sont donc nos mots-clés. Pourquoi est-ce important? Tout en restant dans l'univers Google Ads, l'engagement qui parcourt l'entonnoir de conversion peut être long. Un utilisateur peut avoir vu une première fois votre annonce via YouTube, puis avoir cliqué sur un mot-clé générique, mais finalise la conversion sur un mot-clé de marque. À qui revient le mérite dans ce cas? Google propose 6 modèles différents. Le premier clic, le dernier clic, le modèle linéaire, la dépréciation dans le temps, basé sur la position et basé sur les données. Ce dernier étant le modèle par défaut dans un compte Google Ads. C'est intéressant de savoir qu'il y a un peu moins d'un an, c'était le modèle premier clic qui était l'option par défaut. Google change sa manière de voir et d'analyser les données. Sans trop faire durer le suspense, nos experts chez Pure Commerce utilisent soit basé sur la position ou basé sur les données. Ce choix est également ce que les conseillers Google recommandent. Dans la majorité des cas, nos équipes travaillent sur la croissance, la conversion et la génération de valeur. De fait, nous excluons les modèles premier et dernier clic. Ici, 100% de la conversion est attribuée au premier ou au dernier clic. Ces modèles sont datés et ne saisissent pas toutes les nuances de l'engagement pendant l'entonnoir de conversion. En réalité, ils ne capturent même pas toute l'histoire et ne considèrent que le début pour le premier clic ou la fin pour le dernier clic. Les résultats sont trop francs et ne permettent pas une réelle analyse des mots-clés et des performances. Cela dit, si vous travaillez sur des campagnes de notoriété qui sont très hautes dans l'entonnoir de conversion, l'attribution premier clic peut être utile. Le modèle linéaire présente du mieux en donnant une part égale du pourcentage de la conversion à tous les mots-clés qui ont obtenu un clic. Cela dit, d'autres options sont bien plus pertinentes. De même pour le modèle dépréciation dans le temps. Pour celui-ci, Google répartit encore une fois le mérite de la conversion sur tous les points de contact ayant eu un clic. Mais il donne des parts de pourcentage progressivement plus importantes à mesure que le point de contact se rapproche du dernier. Ce modèle peut être intéressant si votre processus d'achat est long, comme ça peut être en B2B, ou si votre compte est plus complexe. Dans le commerce électronique, ce modèle n'a pas grande valeur. Il complique plus le travail qu'autre chose. Pensons donc aux deux modèles qui nous intéressent vraiment. L'attribution basée sur le temps donne 40% de la conversion au premier et au dernier clic. Google répartit égalitairement les 20% restants sur tous les autres points de contact qui ont eu un clic entre ces deux étapes. Il s'agit du modèle d'attribution le plus axé sur la croissance car il donne une image plus juste de la situation. Il permet aussi des optimisations plus approfondies dans la gestion des mots-clés. Ce modèle combine ainsi les performances essentielles. Quel mot-clé a su attirer en premier l'attention, lesquels ont accompagné l'utilisateur dans la décision et lequel a finalisé l'action. Un bon compromis qui fonctionne. Enfin, le modèle basé sur les données. Le dernier ajout à la famille, celui qui utilise l'apprentissage automatique de Google pour attribuer le mérite au plus juste à chaque point de contact. C'est le grand fer amélioré de l'attribution basée sur le temps. Au lieu de donner des pourcentages fixes, Google est censé donner des pourcentages représentatifs du poids de chaque interaction. L'ultime but de ce modèle est de déterminer les points les plus influents dans la conversion à travers tout le compte. si choisir entre les deux? Par défaut, nous choisissons l'attribution basée sur le temps, surtout si le compte est petit, nouveau ou possède peu de données. Nous choisissons uniquement l'attribution basée sur les données si nous avons à notre disposition un gros bassin de données qui comprend au moins 300 conversions et 3000 clics dans les 30 derniers jours. Ce volume doit être constant et pouvoir se maintenir pour nourrir les apprentissages d'une telle attribution. Si vos données viennent à tomber sous la barre des 200 conversions ou 2000 clics, Google vous retirera l'option de son usage, vous forçant à changer d'attribution et donc à revoir la lecture des données de tout votre compte. Si vous n'utilisez pas encore un de ces deux modèles et que vous envisagez de changer, sachez que vous pouvez comparer les modèles d'attribution. Google vous donnera alors les données de conversion pour les deux modèles que vous comparez. Vous pourrez ainsi voir quel sera l'impact sur votre compte dans l'analyse des données. Pour ce faire, rendez-vous sur votre compte, cliquez sur l'icône « Outils » en haut à droite de votre écran. Dans le menu, sélectionnez « Attributions » sous la section « Mesures ». Enfin, dans la barre de menu à gauche, cliquez sur « Comparaison de modèles ». Puis, quitte à être dans la section « Attributions », explorez-la. Il y a plein d'informations intéressantes, comme le nombre de jours et d'interactions qu'il faut à votre compte pour enregistrer une conversion dans la section « Métriques sur le chemin » ou encore les conversions directes. Officiellement, aucun point de contact mot-clé n'a directement conduit à une conversion, mais la campagne est présentée dans l'entonnoir de conversion d'une autre campagne. Cela peut ainsi donner une idée de l'écosystème de votre compte et comment certaines campagnes, notamment les campagnes en haut de l'entonnoir de conversion, contribuent à la santé de vos campagnes faites pour la conversion directe. Pour la partie discussion du podcast, j'ai la chance de recevoir pour la première fois Adeline Navarro, directrice du département Google chez Pure Commerce. Adeline va nous détailler des tests qu'on a fait dans le dernier mois concernant une approche que les gens en placement média Google Ads sont soit partisans ou très opposants. On parle ici des mots-clés à type de correspondance large. On sort les notes car avec le Q4 qui arrive, tous les conseils sont importants. Bonne écoute! Donc, on est de retour pour la partie discussion du podcast Commerce Élite. Et aujourd'hui, j'ai la chance, pour la première fois sur le podcast, de recevoir ma collègue directrice du département Google chez Pure Commerce, Adeline Navarro. Adeline, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Et Adeline, on va parler de Google parce que c'est ta spécialité, c'est ce que tu fais avec nos équipes à l'interne. Et je crois que vous avez fait beaucoup de tests récemment et tu vas nous en parler de un ou peut-être de plus que un aujourd'hui. Mais pourrais-tu commencer à nous dire un petit peu l'état des choses? Où ont été vos efforts, où ont été votre temps, on va dire, dans les dernières semaines au niveau des tests que vous faites avec cette incroyable plateforme qui est Google?
Dans les dernières semaines, on s'est vraiment concentré sur tester les mots-clés. Donc, au niveau du Google, on a plusieurs options au niveau de du type de correspondance des mots-clés. Et il y en a un en particulier qui est les types de correspondance larges qui font parler. Parce que manque de contrôle, souvent de la dépense parfois inutile, mais c'est vers ça que l'algorithme Google tend à développer les campagnes. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen dans nos campagnes de jouer avec cet algorithme et de tourner, on va dire, les contraintes de ce type de correspondance à notre intérêt. Donc vraiment, le gros de nos tests a été sur comment travailler avec un type de correspondance aussi large. Est-ce qu'on est capable de qualifier le trafic? Est-ce qu'on est capable de restreindre la dépense? Et surtout, est-ce qu'on est capable d'avoir les mêmes retours sur investissement entre un mot-clé de type correspondance large et un mot-clé de type correspondance expression? C'était vraiment ça notre but avec nos derniers tests.
Et tu me vois déjà venir. Je suis curieux de savoir un petit peu quels ont été les résultats de tout ça et comment vous êtes arrivé à des conclusions. Parle-nous un petit peu du processus, de comment vous avez mis ça en place.
On a fait deux tests sur deux comptes différents et on a testé sur deux natures de clients différents. Donc, il y a un client que c'est du e-commerce, un autre client, c'est plus de l'événementiel. Sur les deux comptes, on avait déjà un petit peu de données. Alors, le client e-commerce, c'était un compte qui était beaucoup plus jeune avec beaucoup moins de données. Le client événementiel était un client avec un historique de compte assez important acquis depuis plusieurs années. Et on a fait une méthodologie différente. Sur le compte le plus jeune, on a intégré les mots-clés à même la structure. Donc, on a intégré les mots-clés en correspondance large directement dans nos campagnes. On a vraiment dupliqué nos mots-clés et dupliqué nos ensembles de publicité. C'est forcément plus long, mais c'est un peu plus durable au niveau de l'algorithme. Pour le client de type événementiel, on a fait une campagne qu'on appelle les campagnes test, les campagnes AB ou les campagnes experiment, dépendamment de la langue du Google Ads. C'est beaucoup plus court parce que c'est nous qui décidons de la durée. Nous, on s'est quand même dit qu'on voulait rouler ça sur 4 semaines minimum. Mais au bout de 4 semaines, on avait des résultats versus le premier test. Ça nous a quand même pris 3 mois pour avoir quelque chose de tangible.
Et question que je te pose ici, Adeline, parce qu'habituellement, bon, moi, j'ai un petit peu plus d'expérience au niveau Facebook Ads. C'est de là qu'est né J7 Media, qui est l'entreprise sœur de Pure Commerce, où est-ce qu'on a mis beaucoup de temps dans le passé. Nous, notre réponse à combien de temps qu'on a de besoin en moyenne pour faire un test vient toujours à peu près à la même conclusion. Ça dépend du budget que tu as. Donc, si tu as un budget plus significatif, on peut aller plus vite. Si tu as un budget qui est plus petit, ça va prendre un peu plus de temps à avoir des réponses. Bien entendu, j'imagine que la réponse n'est pas tellement loin de ça également au niveau du Google, mais je serais quand même curieux de t'entendre parce que souvent on dit à nos clients au niveau Google Ads, on essaie de donner un petit peu plus de temps à des choses que pour du Facebook Ads qu'on fait des tests. Pour quelle raison, hein, des fois on a besoin d'un petit peu plus de temps Google Ads qu'au niveau Facebook Ads?
Inévitablement, la raison du budget reste la même, qu'importe la plateforme. Pour répondre à ta question, on s'accorde un minimum de 4 semaines. Donc, pour nous, un vrai test, ça va être 1 mois et on ne peut pas être plus rapide que ça. Plusieurs variables, le temps que l'algorithme comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer, mais aussi, de plus en plus, Google nous force la main, si je puis dire, à utiliser des stratégies d'enchères automatiques. Donc, les campagnes gérées en manuel, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins et peut-être que dans quelques années, ce sera plus possible de le faire. Donc, on est obligé de faire nos tests avec de la data. Et pour que Google ait de la data, eh bien, il lui faut du temps. Et en fait, Google va se baser sur les 30 derniers jours pour savoir si on est éligible à utiliser certaines stratégies ou certains types même d'attribution de conversion.
Intéressant. Bon, on revient en ce cas-là au test. Donc, amène-nous un peu dans les coulisses, les résultats de tout ça. Comment ça s'est mis en place pour ta boutique e-commerce et également ton client dans le volet événementiel?
Oui. Alors, pour la boutique e-commerce, ce que nous avons fait, c'est que nous avons tout simplement dupliqué les mots-clés. Alors, il faut quand même savoir que la gamme de produits est assez petite. Donc, nous avions déjà des bassins de mots-clés qui étaient très, très qualifiés. Ces mots-clés-là, nous les avons dupliqués, ce qui veut dire qu'on avait un ad group avec les mots-clés en exact, un ad group avec les mots-clés en expression et un ad group avec les mots-clés en expression large. On a vraiment intégré ces 3 ad groups à l'intérieur de la même campagne et on a laissé le budget s'optimiser au fur et à mesure du temps. Ce qui est très intéressant, c'est que de prime abord, on savait qu'on pouvait avoir des enjeux au niveau des mots-clés avec la correspondance large parce que Google s'octroie la liberté, par exemple, d'avoir des synonymes qui vont pas être forcément pertinents ou alors de changer l'ordre des mots-clés. Donc, on avait quand même, c'était une sorte de condition qu'on savait qu'on n'allait pas n'importe où. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est que on a créé une liste de mots-clés négatifs où on savait que c'était pas des mots-clés sur lesquels on voulait se positionner. L'autre chose aussi que nous avons faite, mais qu'on avait déjà, c'est qu'on a qualifié nos mots-clés. Donc, on s'est assuré que tous les mots-clés qu'on avait, c'était vraiment ceux qu'on voulait tester. Il n'y avait pas de test au niveau des mots-clés. On savait que le mot-clé, l'occurrence, était précisément ce que nous voulions. Et la dernière chose, c'est qu'on s'est assuré de travailler avec une enchère automatique. Ces tests n'ont pas été effectués en manuel au niveau des enchères des CPC. Une fois qu'on a eu tout ça, on a laissé rouler pendant 3 mois. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que si on regarde uniquement les mots-clés avec l'expression, avec le type de correspondance expression, on a eu 25 achats sur une période de 3 mois.
Avec pour la boutique e-commerce?
Pour la boutique e-commerce, oui. Avec un retour sur investissement de 2,69. Il y a 1 000 $ qui a été investi sur ces mots-clés-là. À l'intérieur de la même campagne, rappelons-le, les mots-clés expression large ont roulé, sauf que ces mots-clés-là ont pris 2 300 $ de budget. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'argent naturellement qui ont été investis vers ces mots-clés-là. 50 conversions pour un retour sur investissement de 2,23. Donc, le retour sur investissement, il est quand même globalement similaire, sauf qu'on a eu beaucoup plus de dépenses, donc on a pu augmenter la dépense du compte et on est allé chercher le double de conversion.
Et les ratios sont quasiment les mêmes, là.
Les ratios sont quasiment les mêmes. On peut parler du taux de conversion. Taux de conversion pour les mots-clés type expression, 1,99. Taux de conversion pour les mots-clés en expression large, 1,86.
Ouais,
c'est similaire. Quasiment la même chose. La seule chose qui varie, c'est qu'on a eu beaucoup plus de revenus beaucoup plus de volumétrie de conversion pour le même ratio. Et c'est là où c'est intéressant parce que bien souvent, les mots-clés en type de correspondance large sont un petit peu boudés. Mais on se rend compte que dans de bonnes conditions, avec la bonne gestion et avec assez de temps, on arrive à avoir des résultats similaires, voire quasiment identiques, avec des mots-clés d'expression, en type d'expression. Donc, nous, ça nous a été très, très efficace dans notre compte parce qu'on a été à même d'aller chercher plus de volumétrie de conversion, plus d'achats, donc plus de revenus, tout en conservant notre retour sur investissement.
Intéressant. Est-ce que cette approche de comment que ça s'est déroulé, ça a été sensiblement la même chose avec le client dans le monde événementiel?
On a fait une approche complètement différente parce qu'on s'est dit, maintenant qu'on sait que ces mots-clés-là peuvent être efficaces, qu'ils peuvent être contrôlés et que le retour sur investissement est quand même profitable, on s'est quand même dit, 3 mois, c'est long. Tout le monde n'a pas le temps, l'énergie ou la volonté de gérer ça pendant 3 mois. On s'est quand même demandé, est-ce qu'il y aurait une méthode plus rapide pour tester si ces mots-clés-là seraient efficaces dans un autre compte. Donc, on a pris une méthode complètement différente et cette fois-ci, on a utilisé l'option des tests de Google. L'option des tests de Google, elle est très, très simple. On prend une campagne, on indique à Google qu'on va lancer un test, on sélectionne notre variable. Donc, évidemment, on sélectionne qu'une seule variable pour qu'on puisse interpréter les tests de, on va dire, sur un dénominateur commun. Nous, la variable, ça a été le changement du type de correspondance de expression à large. Et ensuite, Google nous demande quelle est la proportion du budget, de ton budget actuel, que tu veux attribuer à ce test. Donc, ça veut dire qu'on a une campagne source qui est dupliquée en une campagne test dans laquelle tout est géré avec le même budget. Nous, on avait $50 de budget sur cette campagne source. Et pour notre test, on a décidé d'allouer 50-50. Donc 50% continuer d'aller des dépenses. 50% des dépenses continuer d'aller sur la campagne source avec les mots-clés en expression et 50% aller vers le test avec les mots-clés en large. Donc la différence où dans le test précédent, on a dupliqué nos ensembles de publicité, là, le test se fait à même la campagne où on ne duplique rien, Google se charge de tout faire pour nous.
Puis, à quel point qu'il y a eu des... Je veux dire, bon, ce client-là, tu t'es dit, je veux pas lui donner 3 mois. Je veux que ça aille un petit peu plus vite. Est-ce que, je veux dire, la réalité ici a simplement été à cause que tu avais beaucoup plus de moyens à ta disposition?
Il y avait effectivement beaucoup plus de moyens et à la différence avec le compte e-commerce où c'est quelque chose où on avait le temps et la possibilité de tester, la réalité avec le compte événementiel était autre. On a les événements arrivent, hein, tout simplement. On a 25 campagnes avec 25 dates différentes. Puis on n'avait pas le temps d'attendre 3 mois pour se demander est-ce que ça a de la pertinence d'ajouter ce type de mots-clés-là? Parce qu'après, on a quand même tout le déploiement à faire à l'intérieur des 24 campagnes et on voulait absolument que ce déploiement soit fait si le test était concluant avant la fin de la saison 2022.
Intéressant. Puis bon, on parlait, notre podcast aujourd'hui était relié à l'approche correspondance large. Est-ce qu'au final, c'est quoi que tu dirais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, les directeurs marketing, les propriétaires de boutiques en ligne qui font des campagnes sur Google? Peut-être que c'est des campagnes davantage orientées au niveau de leur brand pour être certains qu'ils peuvent sécuriser leur brand sur les moteurs de recherche. Peut-être qu'ils font quelques initiatives sur des audiences inconnues comme tu as mentionné aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu mets dans ton coffre à outils que tu recommandes quand vient le temps de déployer des campagnes?
Je le recommande à certaines conditions. C'est quelque chose qu'il faut tester. C'est pas un outil qu'on sait avec certitude qui fonctionne parce que l'algorithme Google octroie tellement de liberté au type de correspondance large qu'il faut être très, très méfiant. Donc, il faut vraiment avoir une liste de mots-clés qui est à jour et qui est correctement mise en place parce qu'on peut avoir les mots-clés négatifs dans le compte, mais ils peuvent ne pas être appliqués, par exemple, aux campagnes qui nous intéressent. Donc, il faut être très vigilant. Tous les mois, on regarde sur Google si on a eu des impressions sur des requêtes qui ne nous intéressent pas. Si c'est le cas, on les exclut. Il y a vraiment une vigilance constante avec ce mot-clé-là. Par contre, une fois qu'on a compris c'était quoi les requêtes qui nous intéressaient pas, il y a quand même de grandes possibilités avec ce type de correspondance large parce que naturellement, Google octroie plus de budget sur ces mots-clés-là. Donc, si nos intérêts sont de dépenser plus, d'aller vers des comptes qui sont un peu plus gros au niveau de la visibilité, au niveau de couvrir aussi les domaines et les, on va dire, le marché du mot-clé, c'est quelque chose à considérer.
Puis, parce qu'on t'entend, là, ici, tu dis un petit peu plus de vigilance. On est loin de simplement nos campagnes en performance max et on dit littéralement à Google de tout faire pour nous. Là, c'est pas du tout la même chose ici.
Oh non, c'est vraiment, vraiment très, très différent. Il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque. Et si on veut tester les mots-clés à type de correspondance large, il faut déjà savoir comment est-ce que ça fonctionne, puis en quoi ça peut être dangereux. Parce que si on comprend pas ça, on va pas nécessairement avoir les outils ou savoir quoi mettre en place pour aller contrer ces effets négatifs. Donc, il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque. Puis, je recommanderais, avant de le déployer sur tout le compte, testez-le sur un segment. Nous, c'est ce qu'on a fait pour le e-commerce. On l'a testé sur un produit, sur un bassin de mots-clés, puis après, on l'a déployé. Même chose pour le compte sur l'événementiel. On l'a testé sur un événement et puis après, on l'a déployé non seulement sur tout le compte, mais à travers les trois territoires. Parce qu'il n'y a pas uniquement au Canada, on l'a vraiment déployé à travers toute la stratégie. Testez-le sur un petit échantillon. Voyez si ça a des bons impacts. Si ça a des bons impacts dans des bonnes conditions, vous pouvez jouer avec l'algorithme.
Un minimum de budget que tu recommanderais pour avoir de l'information quand même assez rapide, si on va dire un échantillon de 2 à 3 semaines, Adeline?
C'est une bonne question. D'une manière générale, je recommande pas nécessairement de lancer du Google si on a moins que 1 000 ou 1 500 $ de budget mensuel. Donc, si on s'octroie 50 % de budget, je dirais qu'un minimum de 500 $ sur le test serait bon, oui.
Ça fait du sens.
Plus de 2 semaines aussi, parce que bien souvent, on a des coups de chance aussi en Google, vu que l'intention est beaucoup plus qualifiée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à déployer au niveau du compte, regardez si sur 1 mois ou 2 mois, vous avez les mêmes tendances. Parce que ça se peut que si vous déployez ça pendant Q4, pendant la fête des mères ou pendant une période qui est importante pour vous, vous ayez des bons résultats. Nous, le test, nous l'avons déployé 1er mois, période forte, pour le compte e-commerce, mais les 2 autres mois, c'était des périodes beaucoup plus stables parce qu'on voulait s'assurer que sans promotion, ça allait être rentable.
Intéressant. J'adore ce que j'entends, Adeline. Avant de te laisser filer, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais rajouter pour notre audience?
Allez-y pour le Google. C'est une très bonne plateforme.
Très bonne plateforme, une très bonne plateforme en complément, on le sait très bien, avec des campagnes emailing, du Facebook Ads. Bref, ça fait partie d'un écosystème, ça fait partie de ce qu'on considère important si on veut passer de commerce en ligne à commerce élite. C'est un petit peu comment qu'on voit les choses chez Pure Commerce. Adeline Navarro, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.